Les meeples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique les amis, on est le jeudi 17 octobre, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour découvrir un nouveau jeu. Mais il y aura aussi Béa, alors Béa c'est l'autrice de Stickers, mais aujourd'hui elle va venir en tant que chroniqueuse remplacer Morgane pour nous parler de ses soirées-jeux. C'est Ludique, eh bien ça commence tout de suite.
C'est la pause déjeuner, Nat pour t'inviter à jouer.
Et au menu aujourd'hui, eh bien c'est Sierra, un jeu de Pierre Buti illustré par Audrey Marcaggi, édité par Blam pour 1 à 8 joueurs à partir de 10 ans. Voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de partir en voyage dans les Landes. Vous allez former des groupes et vous aider pour composer au mieux le paysage. Vous ne verrez pas forcément la même chose. Certains verront des mammifères, d'autres des oiseaux ou encore des rivières. Dans Sierra, vous pouvez gagner seul ou collectivement et vous avez plusieurs manières de jouer. En mode équipe, en mode coopératif, en mode compétitif. On va s'intéresser au mode en équipe. Je vous laisserai découvrir les autres façons de jouer à Sierra. Alors au niveau de la mise en place, en mode équipe, par groupe de 2, peut y avoir aussi des groupes de 3, au total vous pouvez jouer donc jusqu'à 8, vous allez mélanger les cartes carnet de voyage et les cartes montagne. L'originalité de celles-ci, c'est qu'elles sont découpées, elles n'ont pas toutes la même forme, de façon donc à créer le paysage. Chaque joueur prendra une carte destination, deux cartes montagne, enfin l'un des joueurs de chaque équipe prendra la carte rôle, elle changera bien sûr à chaque tour. Mais alors comment on joue? Eh bien Sierra se joue simultanément, celui qui a la carte rôle va piocher deux cartes carnet de voyage, ce sont des objectifs personnels, mais visibles pour tout le monde à réaliser, il en choisit un et défausse l'autre. Les autres joueurs de son équipe piochent deux cartes montagne afin de composer ensemble le paysage commun. À la fin du tour, chaque groupe donne au groupe suivant les cartes montagne qui lui restent et on continue à composer le paysage. Voyons comment d'ailleurs il se compose ce paysage. Une carte montagne placée à droite ou à gauche d'une carte du paysage doit toujours être de même couleur que sa voisine. Vous pouvez la placer en dessous ou au-dessus d'une carte de couleur différente. Une fois placée, les cartes montagnes ne bougent plus du paysage. Il ne peut pas y avoir deux lignes de même couleur l'une sur l'autre. Autre chose, sur les cartes montagnes, il y a des petits symboles. Mammifères, des oiseaux, de l'eau, des maisons, vestiges, rivières, vent, bref, il y a plein de choses. Il faut essayer de les placer au mieux dans le paysage pour vos cartes destination. Alors en plus de l'objectif commun, chaque joueur aura eu 4 objectifs à faire avec ses cartes destination. Bien sûr, vous pouvez aider les autres joueurs de votre équipe à les réaliser. Le joueur qui obtient le score le plus élevé remporte une victoire individuelle et fait gagner 5 points à son binôme ou 10 points en trio à chacun de ses coéquipiers. Et si vous avez plus de points que les autres joueurs de l'équipe, eh bien, vous remportez la victoire en équipe, tout simplement. Alors ce que j'en pense de Sierra, déjà c'est une DA vraiment top avec ce système de cartes coupées qui permet de créer ce beau paysage. Je vous avoue, lors de ma première partie, j'ai pas été emballé, pensé à trop calculer les points au fur et à mesure certainement. Alors j'y ai rejoué et oui, il y a un truc, ça c'est sûr. C'est original et on n'a pas l'habitude de jouer à ce type de jeu, ça offre une expérience totalement différente et le gameplay est vraiment intéressant. Mais il faut faire plusieurs parties pour apprécier le jeu, d'ailleurs dans ses différentes configurations, vous avez même un mode campagne, ce qui permet d'ailleurs une excellente rejouabilité. Voilà, donc ça s'appelle Sierra et c'est sorti fin septembre chez Blam Édition. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Béa pour les soirées-jeux.
C'est la pause déjeuner. C'est ludique, les soirées-jeux, c'est magique.
Et comme tous les jeudis, on parle de soirées-jeux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Morgane qui est avec moi, c'est Béa de Terre de Jeux Nantes. Salut Béa!
Et salut Matt, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Mais ça va très bien.
Alors je t'ai eu il n'y a pas très longtemps parce que tu es aussi l'autrice du jeu Stickers. Mais aujourd'hui, on va parler de soirées-jeux, de ce que tu as joué dernièrement. Ça peut être des jeux beaucoup plus anciens. Donc parle-nous de ce que tu as fait dernièrement lors de tes soirées-jeux.
Alors effectivement, moi mes soirées-jeux c'est le mercredi soir à l'Assaut. Ouais. Et du coup hier nous avons pu jouer à Augustus. Donc Augustus c'est un jeu de Paolo Mori qui a été illustré par Vincent Dutré. C'est un jeu qui est assez ancien, qui a eu sa réédition qui s'appelle Via Magica. Ouais. Et autant j'avais joué à Via Magica, autant je n'avais pas joué à Augustus.
Comme
c'était
toi.
Donc l'occasion, comme quoi. Donc c'est un jeu un peu de bingo dans lequel eh bien il va falloir, on a des cartes devant nous, on a trois cartes, ça va être des sénateurs, ça va être des régions, oui parce que c'est époque romaine hein, comme le nom
l'indique. Oui, rien à voir avec Via Magica où on était dans la magie quoi. Hein.
Rien à voir, effectivement. Et l'idée c'est qu'il va y avoir un crieur qui va changer régulièrement, qui va piocher des jetons dans un sac. Et ces jetons, bah, par exemple s'il va tirer un char, moi je vais prendre un de mes petits légionnaires, donc c'est un petit meeple en bois, que je vais poser sur un petit char. Voilà. Et donc sur le côté de mes cartes à moi, je vais avoir des chars, des épées, des glaives, des boucliers. Donc je prends mon petit meeple et je le pose sur un char.
Ok.
Lorsque j'ai posé autant de petits meeples qu'il y a autant de légionnaires qu'il y a de petits logos, eh bien je valide ma carte et du coup les joueurs doivent dire Ave César.
D'accord.
Et à ce moment-là, eh bien, je mets ma carte sur le côté, je la valide, je vais pouvoir activer son bonus si elle en a un, comme par exemple de récupérer des nouveaux légionnaires ou de replacer des légionnaires ailleurs.
D'accord.
Ou alors, pourquoi pas, parce que c'est un jeu quand même un peu taquin, aller détruire des objectifs des autres ou leur enlever des légionnaires. Donc,
d'accord.
Voilà, on n'est pas sur un jeu feel good quand même. Hein. On a pu le tester hier soir. Et le premier à valider du coup cette carte remporte, enfin met fin à la partie. On va calculer les points. Donc qu'est-ce qui va nous donner des points ? Eh bien les bonus sur les cartes qu'on a validées,
ouais.
Mais aussi des objectifs, puisque tout au long de la partie, par exemple, le premier à avoir trois sénateurs va pouvoir remporter la carte, l'objectif sénateur. Le premier à avoir trois régions violettes va pouvoir remporter la carte objectif.
D'accord.
Si on a de l'or ou du blé, on va pouvoir aussi se le piquer l'un à l'autre. Enfin bref, beaucoup d'interactions, beaucoup plus malin qu'il en a l'air. Et en vrai, j'ai vraiment kiffé ça.
Et alors, toi qui as joué aussi à Via Magica, la différence entre les deux ?
Alors, en termes de design, déjà, Via Magica, on est sur un design beaucoup plus enfantin et beaucoup plus feel-good. C'est beaucoup moins méchant, Via Magica. Il y a beaucoup moins d'interactions.
D'accord.
Puisqu'on ne va pas aller détruire des objectifs des autres. Alors ça, c'est totalement subjectif, hein, bien sûr, mais j'ai préféré Augustus.
Vraiment. T'as préféré Augustus ?
Ouais, clairement.
Donc en gros, ce qu'ils avaient voulu faire, l'éditeur, c'est finalement faire une version un peu plus familiale d'Augustus.
Ouais. Alors je sais pas si c'était ce qu'ils souhaitaient, mais en tout cas, c'est ce qui est apparu.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà.
Alors, Oui, vas-y, tu as joué à quoi d'autre ?
J'ai pu tester Mosquitos Zizani dans la mare, donc ça c'est un jeu qui est sorti il y a peut-être 3 semaines, 1 mois.
D'accord.
C'est un jeu qui est passé complètement sous les radars,
ouais.
Et moi c'est de Valérie Ao, et c'est illustré par Laurent Zagny et Benjamin Treyou, et c'est Betula Édition. Betula Édition, c'est une maison d'édition qui a fait aussi Le Grand Voyage et Ma Vie de Renard.
D'accord.
Et en fait c'est une maison d'édition qui a pour but d'avoir un apport pédagogique sur la faune et la flore dans ces jeux. Donc, Migration, Le Grand Voyage, on était sur une mécanique de Stop ou Encore où on incarnait des oiseaux qui avaient vraiment cette idée de il faut voler le plus grand possible, mais en même temps, il faut faire très attention aux dangers que les oiseaux peuvent rencontrer lors de la migration.
Okay.
Ma Vie de Renard, on incarnait un petit renardeau et il fallait aller explorer le plateau pour aller, partir vivre son aventure personnelle. Et donc, c'est les dangers que les renardeaux pouvaient rencontrer. Et dans Mosquitos, eh bien, c'est un thème un peu rigolo. Moi, j'aime bien. C'est donc on est dans une mare et va falloir à l'aide de cartes essayer de manger un maximum de moustiques.
D'accord.
Donc pour ça on va avoir des nénuphars avec plus ou moins de moustiques dessus et dans nos cartes on va avoir 10 cartes, ça se joue en dimanche et il y a 5 petits animaux. On va avoir le héron qui est le premier joueur, on va avoir la grenouille, on va avoir la libellule, on va avoir l'hirondelle et on va avoir la pipistrelle. À savoir que la pipistrelle la chauve-souris commune.
D'accord.
Et en gros, chaque joueur va jouer une carte face cachée, on va la révéler, et dans l'ordre du tour, on va les résoudre par initiative qui est la valeur de la carte.
Okay.
Et donc, chaque animal va avoir une capacité, donc le héron va déjà devenir premier joueur pour le prochain tour, mais va renvoyer toutes les grenouilles dans la mare. Et donc, tous ceux qui ont joué des grenouilles ne pourront pas jouer à ce moment-là.
Okay.
Si on a joué la grenouille et qu'il n'y a pas de héron, eh bien on va pouvoir se déplacer de un nénuphar à droite ou à gauche et manger tous les moustiques qui sont sur le nénuphar sur lequel on atterrit. Vous allez avoir l'hirondelle, par exemple, qui peut survoler jusqu'à 3 nénuphars et elle va picorer tous les moustiques par lesquels elle passe. On va avoir la pipistrelle qui, elle, est hors du plateau, hors de la zone de jeu, qui va pouvoir aller soit à l'intérieur de la mare récolter tous les moustiques ou alors sur un nénuphar en particulier. On est vraiment sur un jeu un peu de guessing, comme peut être Love Letter, mais en plus familial, avec moins d'effets, bien sûr.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça très charmant. Le matériel en bois, il y a des gros animaux en bois. C'est vraiment... Moi, j'ai été séduite. J'ai vraiment été charmée.
Quand je t'entends parler de ce jeu, ça me fait penser un petit peu à Aquarena. Est-ce qu'on est dans ce même style ou pas du tout?
Eh ben, je sais pas.
D'accord, ok.
Pour le coup, j'ai pas joué. Donc...
T'as pas joué à Aquarena.
Donc voilà.
Parce que c'est un peu... Ouais, j'ai l'impression qu'on se retrouve un petit peu. Sauf que là, il y a un grand plateau. Mais bon, c'est pareil, il y a du bluff aussi au niveau des cartes par rapport à ce que tu mets au niveau des insectes. Ça me fait penser beaucoup à ça.
Bah, c'est possible. Après, là, pour le coup, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ce côté très épuré, c'est hyper facile en termes de règles. Pour autant, il y a un peu stratégie. Le fait qu'on joue le héron et que du coup, on envoie toutes les grenouilles dans la mare, ça met vraiment de l'interaction entre les joueurs. Enfin, moi, j'ai passé vraiment un très bon moment.
Ok. Tu as joué à quoi d'autre?
Eh ben, j'ai joué à Surfosaurus Max. Donc ça, c'est un jeu qui sort demain.
D'accord, demain.
Donc Surfosaurus Max, on est sur une localisation qui est de Iquancon, illustrée par Mathias Model, désolé si je me trompe, et c'est le nouveau jeu de chez Banjo qui arrive. Donc c'est un jeu avec une DA qui est un petit peu particulière, puisque nous sommes des dinosaures qui faisons du surf.
Ouais.
Avec des couleurs très vives, enfin c'est très très particulier. C'est un jeu qui est un peu compliqué à l'expliquer. Je pense qu'il fait partie typiquement des jeux qui sont pas sexy à expliquer, mais qui sont aussi bien que c'est pas sexy quand on le raconte.
D'accord, ok.
Donc l'idée c'est que on va chacun avoir une planche de surf qui va être posée devant nous et on va avoir deux cartes, chacun dans la main, carte en planche de surf. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça rigolo. Il y en a, ils vont détester. Hein, on sait. Les aficionados de la carte carrée standard, on vous reconnaît. Et donc, l'idée, c'est que c'est tout simple en termes de mécanique. Ça se joue en un certain nombre de manches en fonction du nombre de joueurs. Et une manche, c'est je pose une carte, je repioche, on fait un tour de table, on fait un deuxième tour de table. Donc, tous les joueurs auront deux cartes posées devant eux. Ces cartes, ce sont des couleurs et des valeurs allant de 1 à 12. Okay, l'idée va être de créer de manière commune une combinaison de poker qui vont être par exemple la Surfosaurus Max, qui est la suite couleur, le Numberosaurus, qui est 5 cartes de même valeur. Ça va être le Surfosaurus, qui est juste une suite, le Colosaurus, qui va être 5 cartes de la même couleur.
D'accord.
Et donc du coup, c'est un jeu de blabla, un jeu de tchatch, puisqu'il va falloir convaincre les autres de partir dans la même combinaison que nous.
Ouais.
Et si non seulement les autres partent dans la même combinaison, mais qu'en plus, moi-même, j'arrive à avoir deux de mes cartes dans la combinaison, c'est tout bénef, on remporte tous les points.
Oui.
Donc il y a vraiment ce côté, c'est une mécanique que j'ai pas vue encore dans d'autres jeux. Ça crée vraiment quelque chose autour de la table. Et je trouve ça trop bien.
Oui, et puis on se met un petit peu, moi j'y ai joué, on se met un petit peu aussi, y en a un, il va se faire démonter, faut le dire, clairement. Il y en a souvent, quand on voit qu'il a un peu trop de cartes, allez hop, la prochaine fois, tu passes
plus. Il y a très clairement un côté texte. Après, il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est un jeu d'ambiance,
qui
se joue en un quart d'heure, 20 minutes. Il a cette particularité d'être très original dans la mécanique et dans la DA. Et en vrai, ça marche.
Et il n'y a pas les mêmes points sur toutes les cartes. Hein, c'est pas...
Non, parce qu'effectivement, il y a demi-coco et coco pleine. Mmh. Si jamais ma carte est unique dans la combinaison, elle score en coco pleine.
Ouais.
Et par contre, si par exemple, on est deux à avoir posé une carte 7 dans une suite, et ben à ce moment-là, on va la scorer en demi-coco.
Ouais.
Donc demi-coco, c'est la moitié des points que ce qu'on aurait dû avoir normalement. Donc il y a toujours moyen aussi d'enquiquiner les autres. Et de leur faire scorer en demi-coco. Si je vois que je suis mal parti, je vais poser la même carte que quelqu'un d'autre pour baisser ses points, par exemple.
Très bien.
Donc voilà, ça a vachement plu, ça aussi.
Ça a vachement plu.
Vraiment.
Merci beaucoup, Béa. Je vais te poser une dernière question. Il y a plein de jeux qui sortent là jusqu'à Noël, ça c'est sûr. Demain, je fais une émission spéciale Tower Up. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu?
Sur lequel, excuse-moi, j'ai pas entendu.
Tower Up.
Sur Tower Up. Alors oui, Tower Up, je l'ai essayé. Je le trouve très efficace. Il y a un côté un peu old school qu'on pouvait retrouver dans les aventures du rail, c'est-à-dire que tu fais une action parmi deux avec pas mal de stratégie derrière. Par contre, moi, le thème m'a laissé complètement froide.
Le thème de construire une ville?
Ouais. En fait, l'idée, c'est que à ton tour de jeu, soit on prend une carte parmi trois qui va nous donner des blocs,
ouais.
des blocs plastiques qu'on peut empiler. Donc, on va devoir poser à. Donc, le plateau, c'est des croisements de villes. En fait, c'est une ville avec des emplacements et des croisements, des routes. Et la deuxième action, ça va être de construire. Pour construire, eh bien, c'est simple. Je vais devoir poser à un emplacement disponible adjacent à un emplacement qui est plein un bâtiment, un bloc de bâtiment. Donc il y a quatre couleurs, de la couleur que je le souhaite. Mais par contre, s'il y a des bâtiments adjacents, il va falloir que je paye entre guillemets ma construction en rajoutant des blocs sur les bâtiments déjà existants de la même couleur. Et ensuite, je vais pouvoir poser un de mes toits à ma couleur. Donc c'est ce qu'on appelle faire une présence. Et par exemple, si j'ai une présence dans le bâtiment de 3 marrons, je vais avancer mon engin de chantier de 3, engin de chantier marron de 3. Plus je vais avancer mes engins de chantier, il y en a 4, donc des 4 couleurs des bâtiments, plus je vais gagner des points et ça va éventuellement me permettre de rejouer. Eh ben oui, il y a de la stratégie, oui, ça fait réfléchir. On est dans un jeu un peu abstrait, puisqu'il va vraiment falloir réfléchir à ses positionnements, à qu'est-ce que je peux jouer. Mais par contre, moi, le thème m'a laissé complètement froid. Et c'est un jeu qui se veut familial, puisque voilà, je t'ai dit, c'est vraiment pas très compliqué en termes de règles. Par contre, bah voilà, la coupe qui est magnifique en soi, bah, elle fait plus jeu initié et voilà.
Ouais. Donc tu penses que ça peut, oui, au niveau de la coupe, ça peut dire à certains, bah non, je vais pas sur ce jeu-là, ça va être trop compliqué.
Ça peut être ça. Ça peut être aussi, le thème m'attire pas.
Le thème, ouais. Okay.
Ouais, en fait, on est vraiment dans un moment où les gens sont vraiment attirés par
les thèmes nature, écologie.
Alors, pas forcément nature, mais plus, par exemple, ce qui marche énormément, ça va être le T-Turtle. Tout ce qui va être Unstable, Exploding Kitten, Slay, vraiment les petits animaux mignons, le chibi, par exemple, ce genre de choses, ouais. Kyoto no Neko aussi. Ça, des trucs colorés, des trucs. Là, Tower Up, même si le jeu est hyper efficace, ça reste du plastique. Et puis voilà, c'est une couve qui est très belle. Vraiment, l'illustratrice a fait un taf vraiment chouette. Mais ça reste des bâtiments qu'on construit, quoi.
Eh ben, on aura l'occasion d'en parler demain avec Chloé, qui est responsable éditoriale chez Monolith. D'ailleurs,
ouais,
c'est le premier jeu à Monolith.
Oui, c'est le premier jeu boutique directement
voilà,
avant Monolith. Effectivement, était beaucoup par Kickstarter. Donc, j'espère vraiment pour eux que je me trompe.
Un jeu qui est attendu en plus, ouais. Un jeu qui est attendu.
Oui, oui.
Hein.
Voilà. Ouais, ouais.
Merci beaucoup, Béa. Et à très bientôt dans C'est Ludique.
Eh ben, avec grand plaisir. Bonne
journée. Salut.
À tous, hein.